compteront le temps des sœurs.
Bonsoir, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère, toujours sur 88.4 en modulation de fréquence dans la région marseillaise et bien entendu dans le monde entier sur le site internet de la radio www.radiogalère.org. Nous allons consacrer ce soir une émission à écouter avec attention, et j'allais même dire avec passion, l'historienne Annie Lacroix-Rie, qui va répondre à une question historique. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ou plutôt, pourquoi ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui a des racines historiques extrêmement profondes? Et ça renvoie à l'histoire de l'impérialisme, c'est-à-dire à une histoire qui commence, disons, à la deuxième moitié du XIXe siècle et qui n'est pas encore achevée sous nos yeux. Et dans cette perspective, donc Annie Lacroix-Rie répond avec tous les savoirs qu'elle a accumulés par différents biais et à travers différents travaux sur cette question, qu'est-ce que c'est que cet enjeu ukrainien qui, on l'a compris d'ores et déjà, dépasse très largement la population ukrainienne, c'est un enjeu de portée internationale mondiale. C'est un rapport entre l'impérialisme dominant ou les impérialismes dominants et le reste de la planète. Et il se joue là quelque chose de tout à fait important qu'elle nous aidera à mieux comprendre. Mais auparavant, je voulais situer l'écho que son propos aura, en particulier par rapport à l'impérialisme allemand. Car il faut savoir que dans l'histoire des impérialismes, elle le développera plus que moi, l'impérialisme allemand a précédé l'impérialisme états-unien. Il a suivi l'impérialisme britannique, mais il a précédé l'impérialisme états-unien. Bon. Et donc, en fait, les rapports entre l'Allemagne et la Russie, que cette Russie fût tsariste, qu'elle fût bolchevique et qu'elle soit... ce qu'elle est aujourd'hui, sur lequel qualification qu'il y a, sur lequel il y a beaucoup de débats, mais quelle que soit la forme de la Russie est l'objet d'une vindicte et d'une hostilité permanente de la Russie dans la période impérialiste dans laquelle nous nous trouvons. Ça s'est confirmé, allez dire au-delà de toutes mes espérances, puisque l'émission a été enregistrée jeudi dernier, et ce dimanche, le chancelier allemand, le chancelier Scholz, a prononcé un discours d'une extrême virulence contre la Russie, venant apporter de l'eau au moulin d'Annie, plus qu'elle ne pouvait à la limite l'espérer, mais vous verrez à l'entendre qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs de cette position du chancelier allemand. Et donc, effectivement, tout ce qu'elle a pu dire et que vous allez entendre était justifié et au-delà par l'attaque très très virulente de Scholz ce dimanche sur une télévision allemande. Alors là où c'est cocasse, parce que on peut quand même ironiser, vous me permettrez de le faire, c'est que ce même jour, il y avait des élections en République fédérale allemande dans un des Länder, donc le Länder qui est tout à fait au nord-est, le Schleswig-Holstein, et dans ce Länder, la social-démocratie, donc le parti de M. Scholz, a subi une défaite historique, c'est-à-dire que son parti a reculé de 10 points, alors que la CDU de Mme Merkel augmentait de 10, c'est-à-dire qu'il a pris une magistrale paire de claques, et donc au moment où il prononçait ce discours très violemment anti-russe, les électeurs le quittaient et allaient se réfugier sur d'autres positions. Donc c'était très amusant de voir la concomitance de ces deux phénomènes, c'est-à-dire comme si l'extrême virulence anti-russe du chancelier se retournait contre lui par la voix des électeurs. C'est pas la mienne, c'est la voix des électeurs d'un des grands landes dont la République fédérale allemande. Voilà, voilà pour le contexte. Et puis, il faut que je vous explique le mode de production de nos émissions sur Radio Galère. Bon, Comaguerre donc anime des émissions de géopolitique depuis un certain nombre d'années. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas avec les moyens de Radio France, c'est-à-dire que pour aller interviewer Annie Lacroix-Rie, je suis allé dans la maison où elle passait ses vacances, on s'est installé, alors il y avait la famille qui était là alentour, on s'est installé dans le bureau où elle travaillait, parce que je dis maison de vacances, mais Annie Lacroix-Rie, comme dirait Astérix, a toujours un petit ouvrage sur le feu, un petit ouvrage de 700-800 pages, qui paraîtra l'année prochaine, et donc elle travaille, mais elle est en vacances, elle est un peu reposée, elle va moins aux archives, etc. Et donc ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, c'est pas la première fois que je l'interviewe dans ces conditions, j'arrive avec un enregistreur, et puis je lui dis, voilà, on va parler de l'Ukraine, et puis je savais qu'elle avait déjà abordé le sujet dans différents papiers qu'elle avait fait dans des journaux, sur des sites, etc. Donc je savais qu'elle avait une totale maîtrise du sujet, et elle me dit, d'accord, nos préparatifs s'arrêtent là, c'est-à-dire je lui dis, voilà, je te pose une question, et tu réponds. La différence avec Radio France, c'est que sur Radio Galère, et ce que fait Comaguerre, c'est de dire, tu réponds à ma question que je pose en 2 minutes, tu as presque 1 heure et demie pour répondre. Et vous allez voir qu'elle répond. Mais elle répond en 1 heure et demie. C'est-à-dire que la philosophie, si j'ose dire, de nos émissions, c'est de dire, laissez la parole à celui qui travaille, laissez la parole au chercheur, lui donner le temps de développer sa pensée, parce qu'elle le mérite, et pas lui dire c'est oui ou c'est non. C'est-à-dire, c'est le genre de débat de jeu télévisé qui n'a aucun intérêt pour la compréhension de l'histoire et auquel je me refuse absolument. Et puis, il s'est greffé sur ce mode opératoire donc des émissions Comaguerre un petit incident étonnant qui n'avait jamais eu de précédent à ma connaissance. C'est-à-dire que au cours de l'enregistrement, Annie Lacroix a fait un lapsus. Et ce lapsus, je ne l'ai pas entendu non plus. Et c'est en réécoutant l'émission chez moi, 3 jours après, que je me suis dit, il y a un moment où elle prononce une phrase, elle parle de l'Allemagne et elle veut dire la Russie. Et je lui ai donc envoyé un extrait de l'émission. Elle m'a dit, c'est pas possible. Et je lui ai dit, t'as dit ça, mais moi j'ai laissé passer, je n'ai pas réagi du tout. Tellement on était pris dans le propos où tu développais les relations historiques compliquées et dominatrices de l'Allemagne avec la Russie, que j'ai même pas relevé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Elle a dit, écoute, moi j'aimerais bien quand même d'abord que tu expliques aux auditeurs ce qui s'est passé, et puis si tu mets le mot Russie à la place du mot Allemagne, parce que ça défigure totalement ma pensée, tu le fais. Ce que j'ai fait, et donc vous allez écouter, en toute honnêteté, j'ai pas trafiqué les bandes, on n'est pas du tout dans une chasse aux sorcières stupide, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé le mot Russie à la place du mot Allemagne, là où l'endroit était litigieux. Je ne suis pas ingénieur du son. Ceux qui ont Louis Fine peut-être noteront qu'il y a effectivement une petite bavure dans le raccord. Ça n'a pas d'importance. Sachez qu'Annie Lacroix voulait dire Russie là où j'ai mis Russie à la place d'Allemagne quand qu'elle a prononcé. C'est ça la seule vérité. Et donc, même pas, pardonnez-nous, elle est d'accord. J'ai rempli cette mission, mais il ne sera pas dit qu'elle avait dit un mot à la place d'un autre. Un lapsus, ça arrive à tout le monde, surtout au bout de presque 1 heure de conversation sur un sujet que par ailleurs elle maîtrise totalement. Voilà, c'était ça ce que je voulais expliquer sur le mode opératoire. Je ne suis pas ingénieur du son, j'ai pas trafiqué des bandes, je lui ai dit là tu as dit un mot qui est pas le bon, on va remettre le bon à la place, et donc j'ai pris dans l'enregistrement, vous savez qu'il y a des logiciels de gestion de son, j'ai pris dans l'enregistrement un autre endroit Russie, je l'ai recopié à la place d'Allemagne. C'est à la 48e minute, donc pour ceux qui ont l'ouïe très fine, vous verrez que mon travail de faux ingénieur du son n'est pas bien bon, simplement elle a tenu à ce que ça se fait comme ça pour dire on ne m'a pas fait dire Allemagne à la place de Russie, c'est moi qui l'ai dit, je l'assume, mais il est mieux pour l'auditeur que les choses soient claires et conformes à la vérité. Vous verrez que les phrases qui précèdent cette phrase-là et les phrases qui la suivent justifient totalement cette modification et justifient totalement ce que je rappelais par rapport au chancelier Scholz qui l'a dit dimanche. Elle cite beaucoup de cas où effectivement il y a une espèce de déchaînement de haine anti-russe de la part du gouvernement allemand, qui veut mettre de plus en plus d'argent pour lutter contre la Russie, etc. Donc on est bien au cœur du problème, et à la limite, c'est important de le faire, parce que on a une tendance générale de considérer que quand il y a un événement où on sent qu'il y a des mains cachées, des tireurs de ficelles et des montreurs de marionnettes, on a plutôt la responsabilité générale aux États-Unis, la CIA, et tout cela. C'est un jeu d'esprit classique. Là, son intervention est particulièrement importante, et c'est pour ça qu'elle a demandé à ce que cette modification soit faite, parce que un des grands marionnettistes, un des grands tireurs de ficelles de la crise ukrainienne et de la question ukrainienne, qui est une question séculaire, c'est l'Allemagne. Ça peut être l'Allemagne hitlérienne, ça a été l'Allemagne du Reich, ça reste encore l'Allemagne social-démocrate aujourd'hui. C'est ça le plus important. Mais je lui laisse la place, ces précisions étant faites sur nos méthodes de travail et sur leurs objectifs. Merci Sidi d'être avec nous et on écoute Annie Lacroix. Bonne audition à tous. Bonjour Annie Lacroix, je suis toujours aussi content de venir te voir dans ta retraite, voilà. Dans ta retraite varoise, pour parler aujourd'hui de sujets qui touchent directement à notre actualité, mais qui ont un très très long passé,
ah oui.
Et on va faire un saut d'un siècle en arrière, en gros, mon idée étant de dire, qu'est-ce qui se passe en fait entre le moment où la révolution bolchevique a réussi, c'est-à-dire que le tsarisme est tombé, et donc les bolcheviques sont au pouvoir, et le moment où ils arrivent à peu près à s'organiser chez eux, c'est-à-dire à la fin de 1922, quand effectivement l'URSS est constituée comme une puissance et reconnue par la Société des Nations.
Et il y a toute une période difficile, et qui est, effectivement, qui est une période où la contre-révolution tente encore sa chance. Et elle le fait par différents biais que tu vas nous expliquer. Et en particulier, il y a un acteur, alors on parlera bien entendu des États-Unis, mais on va parler aussi de l'acteur allemand qui, dans cette action contre-révolutionnaire pour éviter un pouvoir russe bolchévique fort, veut bien essayer de gratter un peu sur les réserves de l'adversaire. Voilà. Donc je te laisse nous raconter ça, cette période folle, folle et cruelle. Et voilà.
Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Et évidemment, pour expliquer la situation ukrainienne d'aujourd'hui, si j'avais la double qualification de professeur, d'historienne spécialiste de moderne et de contemporaine, je remonterais encore bien plus tôt.
Bien plus loin.
Je crois qu'on comprend déjà beaucoup de choses quand on démarre de ce qu'on peut appeler le triomphe de l'impérialisme, c'est-à-dire des années 1890, en ce qui concerne les rapports entre l'Ukraine et les puissances impérialistes d'aujourd'hui, les puissances dominantes impérialistes d'aujourd'hui. Parce que, moi je ne vais évidemment pas développer ce qui est bien connu des spécialistes de médiéval ou de moderne sur les relations entre l'Empire russe et sa composante ukrainienne, mais ce qui me semble important, surtout dans la perspective de ces temps-ci, c'est de comprendre ce qu'est l'enjeu ukrainien, pas seulement ce qu'est l'enjeu russe et soviétique, mais ce qu'est l'enjeu ukrainien et comment la Russie a été très tôt, bien avant la révolution bolchevique, un enjeu de rivalité, et surtout un enjeu de conquête de la part des puissances impérialistes les plus importantes. Parce que la Russie, même placée dans la perspective, dans la période impérialiste, et repartons là encore des années 1890, et notamment de la politique de De Witt, qui est une politique d'appel d'un pays désormais capitaliste, faible, à des pays capitalistes, impérialistes, puissants, on a une Russie qui devient un pays impérialiste, mais un pays impérialiste particulièrement faible, voilà, qui est, je dirais, la double victime d'un système vermoulu, qui a été abattu théoriquement en 1861 avec Loukas sur la libération des Serbes, en quelque sorte l'introduction de l'agriculture russe dans le marché capitaliste, mais une Russie qui émerge dans le monde contemporain sur la base d'un investissement extérieur, d'un investissement étranger qui est réalisé par toutes les puissances impérialistes, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, enfin bon, je ne vais pas dérouler le bottin, évidemment, qui apporte un développement de type capitaliste, mais avec une économie moderne, une économie contemporaine, qui dépend presque strictement, pour ne pas dire strictement, du capital étranger. C'est-à-dire que tout ce qui est neuf en Russie, à partir des années 80, disons 1892, c'est quelque chose qui est possédé par les étrangers. Et tous ces pays impérialistes puissants, qui soient venus à la puissance récemment, comme l'Allemagne, ou qui soient des puissances plus anciennes, comme la Grande-Bretagne, la Belgique ou la France, tout le monde se précipite sur la Russie, la taille en pièces, et y implante des activités modernes, qu'il s'agisse de l'industrie, y compris évidemment de l'industrie lourde, centrée notamment sur l'Ukraine, sur le Donetsk, et puis toutes les activités bancaires, financières. On peut dire que le capital russe est un capital particulièrement comprador. C'est amusant d'ailleurs quand on évoque les oligarques d'aujourd'hui, un capitalisme particulièrement comprador, et dont la base intérieure, je dirais, est essentiellement bornée aux industries de type ancien. Hein. Ce que les Russes contrôlent, c'est les industries, quelques industries alimentaires, du textile, etc. Et on leur donne des strapontins éventuels dans les activités nouvelles. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de comprendre comment, indépendamment, ça n'a rien à voir, évidemment, avec le bolchevique et le pas bolchevique, bien que le bolchevique est, dans la période qui a suivi 1917, évidemment, donné une articulation vraisemblable à cette espèce de frénésie anti-russe, il s'agit tout simplement pour les pays impérialistes de participer à la mise en pièces d'une espèce de caverne d'Ali Baba, des mines d'or de la Léna jusqu'à l'Ukraine, en passant par les États baltes, etc., qui sont des bases d'industrie et de finances modernes de ces pays que, en fait, la Russie tsariste, radio-capitaliste, ne maîtrise pas. Une Russie sur laquelle elle n'a pas de prise. Hein. On peut dire d'ailleurs à cet égard, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur l'Espagne, et en particulier sur la guerre d'Espagne, qu'à cet égard, l'Espagne de 1936, elle ressemble étonnamment à la Russie de 1917, hein, c'est-à-dire le même contrôle étranger. Voilà, tout ça pour dire, et je vais insister d'ailleurs sur un des intervenants, qui est un intervenant venu tard, lui aussi, au développement, mais avec un développement particulièrement spectaculaire, c'est-à-dire l'impérialisme américain. Il faut savoir que un des deux fondateurs de ce qu'on a appelé l'école révisionniste américaine, au sens évidemment pas du tout utilisé en France, mais au sens de révision de l'histoire bien pensante de la guerre froide, c'est un historien qui est mort dans les années 1980, qui s'appelait William Appleman Williams, et qui a fait une thèse parue en 54 sur les rapports russo-américains du XVIIIe siècle à 1947, et qui a lu cette thèse comprend les relations qui existent entre les États-Unis et la Russie, je dis bien à l'époque tsariste, hein, puisque ça commence même, l'ouvrage commence au XVIIIe siècle, mais évidemment l'essentiel se déploie depuis, entre, dirons-nous, le XIXe siècle et puis la période soviétique. Alors ce qu'on comprend quand on travaille là-dessus, c'est qu'on voit que le jeune impérialisme russe, très faible, est aussi un impérialisme qui se développe vers le sud, c'est-à-dire vers la Chine, et qui se heurte à cet égard à une prétention considérable des États-Unis, qui s'est d'ailleurs exprimée dès 1899 ouvertement, évidemment, pratiquement bien avant, mais qui s'est exprimé ouvertement en 1899 quand le secrétaire d'État John Hay a lancé avec fracas sa revendication de la porte ouverte contre tous les conquérants européens de la Chine, dont la France, l'Angleterre, l'Allemagne, enfin tout le monde s'était dépecé la Chine, et donc évidemment les États-Unis voyaient d'un très mauvais œil l'avancée des Russes par le chemin de fer de l'Est chinois dans la zone, puisque les États-Unis avaient d'ores et déjà, dans les années 1890, décidé que la Chine serait leur chasse gardée. Ce qui, on ne parle pas aujourd'hui de la Chine, et moi je ne suis pas une spécialiste de la Chine dans les relations internationales, mais ce qui est certain, c'est que personne ne peut comprendre la rivalité américano-chinoise s'il ne connaît pas les ambitions de l'impérialisme américain en Chine depuis la fin du XIXe siècle, puisqu'il s'agissait de se conquérir un marché exclusif de main-d'œuvre, d'expansion des capitaux, de conquête de marché, d'expansion des capitaux américains. Et donc, ce que montre très bien Williams, c'est que les États-Unis, ici comme ailleurs, ne supportent pas la moindre concurrence et en l'occurrence, évidemment, les liens très étroits, très profonds entre la Russie et son sud chinois. Alors, ce qu'on comprend quand on connaît la thèse de Williams, c'est que, bien entendu, la vindique, la haine américaine contre l'Union soviétique n'est pas une haine politique d'emblée. C'est-à-dire que la même haine triomphe dans cette période contre le tsar, qui s'expose, je dois dire, il est bien plus responsable que les bolcheviks n'ont été responsables de la haine qu'ils ont suscitée, parce que, comme on le sait, les tsars pratiquent une politique, on appelle leur marche, qui est une politique de russification et de poigne et d'autorité, et qu'en particulier, ils se sont complus dans la persécution antisémite et qu'aux États-Unis, ça, dans un pays pourtant extrêmement antisémite et qui l'est resté très longtemps et qui a beaucoup d'égards, on ne le sait pas, mais le demeure, ce prétexte qui est une réalité, hein, je ne dis pas le contraire, mais cette persécution des Juifs, je dirais, est tombée à pic pour fournir, avant que le bolchevisme ne fournisse une autre justification idéologique ou politique, est tombée à pic pour justifier l'antipathie des Américains, des États-Unis, des dirigeants des États-Unis contre le rival russe. Tout ça, il faut le savoir parce que depuis 1917, cette espèce de hochet du bolchevisme a tout caché. Et je dirais avec une efficacité redoutable,
oui.
Parce que ça a été très efficace de 1917 à 1939 ou 1941. Ça a été très efficace ensuite, à partir évidemment de l'immédiate après-guerre, bien que la chose soit préparée ou continuée pendant la guerre. Bien entendu, le bolchevisme et l'extension de la zone d'influence soviétique fournit un nouveau prétexte, je dirais, encore plus efficace, si on veut le dire, beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si vis-à-vis des masses, d'ailleurs, c'était un prétexte plus efficace, mais enfin, ma foi, en tout cas, ça entretenait le brûlot. Mais il faut bien comprendre que le brûlot n'est pas du tout d'origine politique. Parce que la disparition dans nos contrées du concept d'impérialisme, c'est-à-dire du concept économique de l'impérialisme, celui que les penseurs sociaux-démocrates au sens général du terme, les penseurs socialistes de la fin du XIXe siècle, et même les penseurs bourgeois, ce que Marx appelait les économistes bourgeois de l'ère impérialiste, avaient très bien défini, et à quoi Lénine a donné, je dirais, une définition particulièrement claire et spectaculaire dans sa petite brochure « L'impérialisme au stade suprême du capitalisme », il faut bien comprendre que l'enjeu russe, comme l'enjeu ukrainien, c'est avant tout un enjeu économique. C'est-à-dire l'enjeu que représente un pays que le sort de la géologie a placé au centre de tout développement industriel et qui a donc attiré comme un aimant tous les impérialismes et évidemment avec une efficacité particulière les impérialismes dominants. Je dis ça parce qu'il faut bien comprendre qu'à la fin du XIXe siècle, les éléments les plus importants de ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire de cette frénésie anti-russe, de cette volonté d'en découdre avec la Russie, ces éléments existent déjà. Et qu'ils jouent un rôle particulièrement important. Les deux impérialismes dominants, qui sont encore aujourd'hui deux impérialismes dominants, bien qu'en déclin relatif, c'est-à-dire l'Allemagne et les États-Unis. L'Allemagne est le premier présent, en tout cas effectivement présent, parce que l'impérialisme allemand ne se dissimule pas la nécessité non seulement, évidemment, de se développer à l'ouest, hein, parce qu'il faut bien le savoir, hein, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que le Drang nach Osten, que la marche vers l'est qui intéresse l'impérialisme allemand. La marche vers l'Ouest l'intéresse tout autant. Évidemment, la marche impérialiste classique, la marche coloniale, hein, même si ça a un peu raté compte tenu des développements historiques contemporains, l'Allemagne, elle veut, elle aussi, se développer partout, en tout, etc. Et il se trouve que, bien entendu, elle a des intentions sur l'ensemble de la Russie, elle y succède, elle y accompagne l'Empire austro-hongrois, qui a les mêmes soucis, même pré-impérialistes, c'est-à-dire celui de disposer de l'accès à la mer Noire pour exporter massivement des productions agricoles de l'Empire autrichien puis de l'Empire austro-hongrois. Et puis, elle a les mêmes aspirations de l'Allemagne, et l'Allemagne a des aspirations industrielles, évidemment, qui deviennent industrielles, financières, qui deviennent prééminentes à partir de la fin du XIXe siècle, et elle a besoin de l'expansion en Russie, elle compte en particulier se développer massivement, d'occuper une position exclusive dans deux zones, qui sont les fameuses zones des marches. D'une part, l'Ukraine, qui est, alors pour le coup, la caverne d'Ali Baba dans la caverne d'Ali Baba, hein, parce qu'il y a à peu près tout, et que le développement capitaliste des années 1890 fait de l'Ukraine un élément majeur du développement russe. Hein, c'est là que commence l'exploitation du charbon, du fer, de Krivoy Rog, etc. Voilà. Et puis, elle compte aussi sur des États, sur les trois États baltes, hein, qui sont intégrés depuis le XVIIIe siècle dans l'Empire, et dont d'ailleurs Pierre le Grand a fait un élément majeur de la gestion de l'appareil d'État, puisque ces barons baltes d'origine allemande, on les retrouve dans tout l'appareil d'État, notamment à partir de Pierre le Grand. Et il se trouve que les trois États baltes ont, dans le développement capitaliste de la Russie, un rôle, évidemment, avec beaucoup moins de ressources, mais un rôle, je dirais, contemporain de celui de l'Ukraine. Donc on ne peut pas d'ailleurs comprendre le sort des États baltes actuels sans connaître les ambitions allemandes sur les États baltes. Donc de 1890, on va dire, jusqu'en 1945, l'influence allemande, qui succède là en partie à l'influence autrichienne, elle est énorme. Ça ne veut pas dire qu'elle soit unique, elle est énorme. Hein, et c'est celle qui se voit le plus. Puisque, il faut le dire, l'Ukraine, comme les États baltes, sont des enjeux majeurs de la Première Guerre mondiale. Hein? Et il faut savoir d'ailleurs que quand on contrôle l'Ukraine, on ne contrôle pas que l'Ukraine. Comme le dit très bien un diplomate français spécialiste de la région au début des années 1920, parce que la France est intéressée beaucoup, beaucoup, à l'Ukraine. En particulier, d'ailleurs, elle s'y est taillée des prébendes dans les années 1890-1917, des prébendes agricoles, des prébendes financières. Et donc, on a des diplomates qui montrent que l'objectif allemand de la conquête de l'Ukraine, c'est la marche vers les terres du Sud. C'est, comme d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'étape vers le Caucase, qui est avant 1914 déjà une grande zone pétrolière avec Bakou. Voilà, et c'est la marche vers l'Irak, vers l'Iran, enfin vers le pétrole. Bon. Et ça se dessine même avant 1914. Je disais succession de l'Empire autrichien parce que la succession de l'Empire autrichien met l'accent sur quelque chose d'extrêmement important dans la conquête orientale de l'Allemagne, qui est le rôle du Vatican. L'expansion de l'Empire autrichien puis austro-hongrois s'est faite en terre slave, en terre russe, notamment via le Vatican, qui a été le maître de l'instrument de conquête, c'est-à-dire l'uniatisme, au moment des schismes, enfin au lendemain des schismes. Et cet uniatisme, c'est l'arme suprême de l'Empire autrichien, puis de l'Empire austro-hongrois, à ceci près que ce qui change dans le dernier tiers du XIXe siècle, c'est que l'Empire autrichien s'écroule et que l'Empire allemand devient un mastodonte qui, comme le disait très bien dans la phase finale de son poste de chancelier, comme le disait très bien Bismarck, un empire vermoulu qui servait de marchepied à l'Allemagne. Comme disait très bien Bismarck en 1886, nous laisserons la vache autrichienne s'engraisser dans les packages balkaniques, après quoi nous la mangerons. Bon, alors on arrive à la veille de la Première Guerre mondiale, dans une situation, je parle d'abord de l'Allemagne parce que j'ai dit que historiquement c'est celle qu'on voit le plus. Hein. Ça, on parlera des États-Unis, mais les États-Unis, il leur faut un peu plus de temps pour apparaître, je dirais, au grand jour, comme ils le sont à l'époque de Madame Nuland, pas qui considère que l'Ukraine appartient aux États-Unis. Et donc, on se trouve à la veille de 1914 dans une situation telle, très bien exposée d'ailleurs par les grands porte-parole de presse de l'impérialisme allemand, dans une situation telle que disent les impérialistes allemands, non mais on ne va pas seulement se développer en Afrique, hein, où ils ont commencé à se développer, voilà, à partir des années 1884-85. Sachant qu'ils ne s'étaient pas, évidemment, il ne restait pas grand-chose, mais enfin, ils ne s'étaient pas taillés quand même un empire absolument ridicule, hein, notamment en Afrique de l'Est, hein, où en plus un génocide marquant leur a permis de découvrir les mines de diamants. Mais les Allemands considèrent qu'ils ont le droit, non seulement, évidemment, comme tout le monde, de s'étendre au détriment des populations non blanches, hein, ils l'écrivent comme ça, chez les sauvages, mais qu'ils peuvent aussi, ils doivent s'étendre chez les nains, les quasi non-humains. On est déjà dans la perspective des Untermenschen, hein, des non-humains qui dilapident tout dans des zones aussi riches que les plaines ukrainiennes, hein, avec des villages lamentables qui seraient bien mieux s'ils étaient sous tutelle allemande. Et ce que je raconte, c'est le ton de la presse entre 1900 et 1914, hein, de la presse porte-parole des intérêts coloniaux. Voilà, on ne voit pas pourquoi on se baladerait sur les champs de l'Afrique de l'Est et pourquoi on n'irait pas conquérir ceux des Blancs qui nous sont très inférieurs. Là encore, il faut. C'est pourquoi il faut
toujours. C'est aussi impudent que ça.
Ah, c'est aussi. Je cite alors d'une très remarquable thèse sur l'expansion allemande en Europe, en Afrique de l'Est, d'un historien allemand qui, ça doit dater des années 60, qui a fait une thèse extraordinaire sur l'expansion en Afrique de l'Est, là où a eu lieu le génocide des Herero en 1904-1905, dans une guerre qui est vraiment une guerre génocidaire, et qui a montré comment l'impérialisme allemand, à l'époque où il se développe en Afrique, n'arrête pas d'avouer. Moi, j'ai cité de Blaye un extrait d'un journal porte-parole des impérialistes à Stuttgart, ça pourrait être à Düsseldorf ou ailleurs, et qui dit, on va aller aussi là où les villages ont des cheminées qui fument de manière tout à fait inutile, parce que nous, on ferait beaucoup mieux. C'est comme ça que ça se présente avant 1914. Et ça explique comment, pendant la Première Guerre mondiale, qui a été très très bien étudié par un historien sur lequel je reviendrai, pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a deux objectifs qu'elle réalise, hein. qui sont l'expansion, le maintien, d'ailleurs la base militaire, qui n'est pas seulement une base militaire, qui est aussi une base économique, de saisie des récoltes, d'utilisation du travail industriel, à deux bases essentielles, les États baltes, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part. Mais ça, personne ne le sait, hein, que les Allemands, ils étaient, installés. Alors, je recommande, j'ai déjà dû le dire lors de certains de nos entretiens, l'extraordinaire ouvrage, pas thèse, parce qu'il avait fait sa thèse avant, Fritz Fischer, qui lui avait même valu à l'époque hitlérienne d'être parfait petit hitlérien qu'il était, un professeur d'université à Hambourg à partir de 1942. Fritz Fischer, dans un extraordinaire ouvrage paru en 1961 en République fédérale d'Allemagne, donc c'est pas un bolchevique, hein, c'est un ancien nazi et il est resté à l'Ouest, mais c'est un historien extraordinaire, et qui a fait un ouvrage qui s'appelle « Les buts de guerre germaniques dans la Première Guerre mondiale » et qui donne une image, j'ai parlé tout à l'heure de l'ouverture que permet la thèse de William Appleman Williams, on a la même ouverture quand on lit les 800 pages et d'épures du livre de Fischer sur les buts de guerre germaniques de la Première Guerre mondiale, parce qu'on comprend que l'Allemagne veut conquérir l'Empire et que la base de l'Empire russe, dans laquelle l'Allemagne est présente, active, efficace, jusqu'à sa défaite, jusqu'à sa défaite de 1918, voilà, même après l'armistice de mars 1918 avec les soviétiques, que l'Allemagne, elle a absolument besoin de cette conquête de l'Ukraine, pour des raisons, j'y insiste, économiques, de cette conquête de l'Ukraine et de cette conquête des Pays-Baltes. Un troisième historien, dont il faut souligner l'importance, je dirais, et le sort qui lui a été réservé lorsque l'Allemagne a réalisé son second Anschluss, comme dit très bien un politiste italien qui s'appelle Giacchè. Lorsque l'Allemagne a fait son deuxième Anschluss en avalant la République démocratique allemande, elle a aussi avalé le travail absolument remarquable de toute une série d'historiens est-allemands, dont personne ne connaît le nom, qui ont été des historiens remarquables, admirables, qui ont à peu près tout écrit sur l'impérialisme allemand à partir des années 1950, parce que évidemment ils ont eu accès libre à tout ce qui restait chez eux de documentation sur l'impérialisme allemand et les guerres de l'impérialisme allemand. Ils ont fait des travaux absolument remarquables, et l'un d'entre eux, qui s'appelle Eichholz, qui a été un grand professeur de RDA, qui a perdu son poste avec l'unification, puisqu'il était logique que les Vessies prissent la place des Eussies, qui s'appelle donc Eichholz, a fait une analyse remarquable. Elle est traduite en anglais, elle n'est pas traduite en français, rien n'est jamais traduit en français d'ailleurs, de deux guerres. Il a fait une analyse de la Première Guerre mondiale en montrant que la Première Guerre mondiale, elle a, évidemment, elle se déroule en partie en Ukraine, elle a pour enjeu la conquête des pétroles d'Irak, ce qui se voyait avant la guerre, hein, avec les conflits interimpérialistes sur l'Irak, le Bagdad-Ban, etc. Voilà. Et qu'il a fait un deuxième bouquin, entre autres, c'est surtout le grand historien de l'économie de guerre allemande à l'époque hitlérienne, mais c'est aussi l'historien de cette deuxième guerre du pétrole, c'est-à-dire d'une guerre allemande qui vise à aller par l'Ukraine au Caucase, et qui du Caucase doit gagner les autres zones pétrolières, qu'on sait encore bien plus riches de réserves, etc., c'est-à-dire l'Irak. On n'a pas parlé de bolchevique pour à peine, et en fait, on a les éléments d'aujourd'hui d'un conflit voilà, qui se trouve mettre en cause quelque chose à quoi les Russes sont extrêmement sensibles, c'est-à-dire ce qui leur reste de territoire quand il leur en reste, et par conséquent la manière dont ils abordent les attaques ou les menaces contre leur territoire. Je dis ça parce que, je le répète, le prétexte bolchevique est un prétexte qui a, je dirais, tout obscurci et qui recommence à tout obscurcir. C'est assez drôle d'ailleurs, puisque nous assistons aujourd'hui à une argumentation, enfin nous sommes devant une argumentation complètement antagonique, mais aucun antagonisme ne décourage notre presse, le grand moyen d'information. C'est-à-dire que on a un Poutine qui est à la fois un bolchevique, mais un bolchevique curieux, qui a laissé se déployer quelque chose qui a existé avant lui, entre 1990 et son arrivée aux affaires au début des années 2000, c'est-à-dire ces fameux oligarques, les oligarques les plus riches du monde, il paraît, ou parmi les plus riches du monde, mais c'est quand même toujours le prétexte bolchevique qui nous vient à la figure, puisque Poutine réussit, je dirais, l'espèce de prodige d'être à la fois un monstre capitaliste et une incarnation du danger bolchevique reconstitué. Mais on n'a pas eu à parler de bolchevisme parce que les enjeux, c'est les mêmes que ceux de 1895, c'est les mêmes que ceux de 1914 ou 1918, ce sont les mêmes que ceux de 33, 41, 45, c'est-à-dire la conquête du Pérou russe ou du Pérou ukrainien.
Voilà.
Tout ça pour dire que dans la période des troubles 1917-1922, finalement, on n'a pas une situation très différente, parce que là encore, on peut se tromper, on peut se dire. Bon, et ça a bien fonctionné comme mythe historique d'ailleurs. C'est le fameux mythe de Rapallo. Il y a des historiens de Sciences Po qui se sont fait des thèses sur Rapallo. Alors je rappelle, Rapallo, dans le cadre de la conférence internationale de Gênes, c'est la rencontre de deux parias, enfin un paria apparent, l'Allemagne, un paria vraiment paria, c'est-à-dire la Russie, qui conclut donc à Rapallo, dans la zone, un accord, je dirais, de reconnaissance mutuelle, à une époque, printemps 1922, où l'Allemagne, officiellement, est encore un état paria, je dis bien officiellement, parce que ça n'est pas vrai, voilà, et où la Russie est toujours, et demeure, elle le demeure jusqu'à aujourd'hui inclus, est un état paria. En apparence, ce sont les deux parias qui s'appairent, qui s'aiment, etc., et qui entrent dans une période d'idylle, voilà, qui passera même par une collaboration militaire. Les Français ont essayé entre 1922 et 1933, je veux dire, ils ont essayé avec beaucoup de constance, d'essayer de trouver une alliance militaire réelle entre la Russie et l'Allemagne, et pour cause, ils ne l'ont jamais trouvé. Parce que les deux parias se sont un peu arrangés, soyons raisonnables, il y a un paria qui n'était pas paria entier, c'est-à-dire l'Allemagne. L'Allemagne n'a jamais été un paria, parce que à partir, disons en tout cas, même avant 1923-24, l'Allemagne n'est pas un paria, puisque le traité de Versailles n'est pas du tout appliqué, pour des raisons qui ont été éclairées, je dirais même par la presse financière, examiné par tel publiciste entre 1918 ou 1919 et 1922, c'est-à-dire que les Français ont conservé, en fait, avec leurs partenaires allemands, la quasi-totalité des relations qui avaient été nouées avant la Première Guerre mondiale et maintenues, de fait, pendant la Première Guerre mondiale. Ça non plus, on ne sait pas. Hein. On croit que la collaboration, c'est une création de la Deuxième Guerre mondiale. C'est entièrement faux, c'est une création de la Première. Bon. Voilà, dans laquelle d'ailleurs la dynastie Wendel a joué un rôle tout à fait éminent. Donc l'Allemagne n'est pas un vrai paria, mais enfin officiellement c'est quand même un paria. Et donc l'Allemagne se sert pendant les années 20, alors qu'elle-même n'a pas été impliquée directement, bon, elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais elle n'est pas impliquée directement contre l'attaque des autres puissances impérialistes contre la Russie, je le rappelle. à partir de janvier 1918, se met en place une agression militaire contre la jeune révolution soviétique de 14 pays, rien que ça, 14, hein, dont toutes les grandes puissances, je rappelle, la France, l'Angleterre, la Belgique, parle des plus grosses, les États-Unis, un peu clandestins, mais quand même, ils y sont, enfin 14 pays, la Tchécoslovaquie, tout le monde y est, hein, ou à peu près tout le monde, c'est-à-dire les dépendants des grandes puissances impérialistes, moins l'Allemagne, hein, qui officiellement n'y est pas, mais qui fait évidemment, elle aussi, tout ce qu'elle peut pour affaiblir la jeune république soviétique, et tout ça, qui, je le rappelle quand même, double à peu près le nombre des morts qui ont été occasionnés par la Première Guerre mondiale, hein, parce que la Russie a perdu quelque chose comme plus de 10 millions de victimes dans les deux guerres, mais même plus que ça, parce que la seule dite guerre civile, qui n'est pas du tout une guerre civile, qui est une guerre, qui s'est appuyée évidemment officiellement sur les Blancs, mais c'est une guerre étrangère. Hein. Et cette guerre étrangère a fait quelque chose comme 7 millions de morts. Jean-Jacques Marie récemment a chipoté parce qu'il a estimé que mes estimations tirées de l'ouvrage de Sayer Sekan sur la grande conspiration contre la Russie était très exagéré. Il reconnaît 3 à 4 millions. Ça fait pas mal quand même. Hein. Bon. Et donc, l'Allemagne n'est pas là officiellement. L'Allemagne est là, presque comme alliée. Alors, soyons raisonnables sur l'alliance. Hein. En fait, il n'y a pas d'alliance du tout. C'est-à-dire que oui, la Russie est très contente d'avoir quand même un pays qui la reconnaisse, parce que je rappelle que la Russie, c'est un paria absolu. Hein.
Absolu.
Bon, elle va finir par être reconnue par l'Angleterre, pas longtemps, puisque après l'Angleterre rompt ses relations avec elle sous un faux prétexte, un prétexte entièrement bidon d'intervention dans les élections entre 26 et 27. La France la reconnaît, tout ça, mais elle n'est pas reconnue entre 1922 et 1924. Et l'Allemagne acquiert en Russie un statut tout à fait privilégié. Puis alors un statut d'autant plus privilégié que rien n'ayant changé et l'Allemagne n'ayant pas du tout décidé d'abandonner ses objectifs de marche vers l'Est, à quoi ça a servi notamment cette alliance ? Outre que ça a beaucoup servi l'industrie allemande. Et même, je dirais, le réarmement allemand. Mais soyons raisonnables, il n'y a pas que la Russie qui a favorisé le réarmement allemand. Hein. Il y en a bien d'autres, par des territoires et puis surtout par des financements, hein, par des prêts. Bon, alors laissons pour l'instant l'Ouest, qui a été le principal réarmeur de l'Allemagne, parce qu'il lui a accordé des milliards et des milliards de dollars de prêts entre 1923 et la guerre, ma foi. Hein. Revenons à nos moutons russo-allemands. Donc, qui est-ce qui est en Ukraine ? Qui est-ce qui a le droit de mettre les pieds en Ukraine ? À partir de 22, c'est évidemment les Allemands.
Les Allemands.
Puisqu'il y a Rapallo.
Ils sont amis.
Bon, alors ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils font là ? Eh bien, entre autres, ils font de l'espionnage militaire.
Tiens, tiens.
Et alors, ils ont un instrument fabuleux pour faire de l'espionnage militaire. Je renvoie à mon ouvrage « Le Vatican, l'Europe et le Reich », dont les archives amènent à des conclusions qu'on ne peut même pas soupçonner avant de les avoir vues. Ils sont là parce que, bénéficiant totalement de l'héritage qui a été laissé par l'Empire austro-hongrois, eh bien, ils bénéficient de l'aide du Vatican. Qui est-ce qui fait l'espionnage militaire ? C'est évidemment pas la Reichswehr encore. Ce sont les clercs de toute nationalité, évidemment, avec une grosse majorité, je dirais, d'amis habituels, c'est-à-dire des clercs allemands, des clercs baltes, plein de clercs baltes, puis des clercs ukrainiens, c'est-à-dire tous ces uniates qui ont été chauffés au sein de l'Empire autrichien, puis austro-hongrois, ces gens qui ont une apparence de d'orthodoxes, qui vivent comme les orthodoxes, qui se marient même éventuellement. Ceux qu'on voyait au Vatican n'étaient pas forcément mariés, mais il y en avait. Et puis, voilà, qui conquièrent les populations. Voilà. Et puis qui font de l'espionnage militaire. C'est eux qui le font. De 1900, on va dire de 1922-23 à 1900, on va dire presque jusqu'à la guerre, mais je dirais essentiellement 1933-35 parce qu'il y a du grabuge après. Hein, c'est-à-dire que les Russes, les Soviétiques en virent quand même beaucoup hein, et les renvoient gentiment au Vatican. Hein. Ils n'en ont pas tué beaucoup. Je doute même qu'ils en aient tué. Mais ils les ont virés, et voilà. Et quand est-ce qu'ils reviendront? Eh bien, à partir de 1941, enfin, ou qui croiront revenir, parce que...
Au moins en Ukraine.
Enfin, ils croiront, hein, parce que les Allemands leur feront eux-mêmes très vite comprendre que, vu les circonstances, et vu que le Blitzkrieg n'est pas vraiment un Blitzkrieg dans ces régions, mieux vaut rester, pour l'essentiel, à la frontière que de venir leur... les gêner, se mettre dans leurs pattes. Bon, tout ça pour dire que la thèse de Rapallo, de l'alliance de Rapallo est idiote, qu'elle n'a aucune substance, que les Français ont reconnu, je l'ai moi-même montré, et notamment dans le choix de la défaite, qu'il n'y a pas d'alliance entre les Allemands et les Soviétiques, que, bien entendu, ils ont fait beaucoup de commerce. Les Russes ont eu, à l'époque soviétique, une politique qui est une politique qui n'a jamais varié, d'ailleurs il faut le dire, et qui est la même sous Poutine, qui était que, à partir du moment où on se reconnaissait, on pouvait faire des affaires ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, les Russes adoraient faire des affaires avec les Italiens, même fascistes. Ils s'en fichaient du moment qu'on échangeait des produits, qu'on ne se mêlait pas trop des affaires de l'autre, ça allait très bien. Ce qui rendait littéralement foudrage, le Vatican, qui ne voulait pas entendre parler de ces excellents accords qui arrangeaient beaucoup Mussolini, parce que ils se sont multipliés, disons, entre 1922 et les années 30, ou le début des années 30. Bon, on est toujours dans quelque chose, voilà, où le bolchevisme a pu servir de prétexte, parce que c'était très bien pour les pays qui n'avaient pas encore reconnu l'URSS, puisqu'il y a l'URSS officiellement à partir de décembre 22, et qui se baladaient autour de Riga et qui étaient contraints de faire de l'espionnage dans les pays baltes, hein, j'ai oublié de le dire, mais il faut quand même le rappeler. C'est à partir de là que, de manière durable, les pays baltes ont été arrachés à la Russie. Hein, parce que les pays baltes, ils sont arrachés à la Russie depuis la révolution, enfin depuis 1918, depuis voilà. Hein, ça n'a pas marché momentanément avec l'Ukraine, hein, puisque le passage allemand et d'autres éléments ont fait qu'il y a eu cette fameuse prétendue, elle n'était pas indépendante l'Ukraine, mais prétendue indépendance de l'Ukraine de 18 à 20, mais les Russes ont remis la main sur une partie énorme de l'Ukraine à partir de 1920, quand ils ont chassé les occupants étrangers et les soi-disant indépendantistes qui sont allés préparer leur coup futur contre la Russie soviétique ensuite. Et donc, on est dans une situation où, finalement, les enjeux n'ont jamais varié, sachant que, et c'est une différence avec l'Ukraine, les pays baltes sont devenus une base absolument essentielle de l'expansion occidentale, notamment allemande bien sûr, de l'expansion occidentale en Russie à partir de 1918. On est toujours dans cette configuration puisque finalement les Baltes ont été momentanément intégrés, réintégrés à leur ancienne zone russe entre 1940 et 1941, et puis sont redevenus soviétiques à partir de la victoire soviétique, en fait à partir de 1944 jusqu'à la déchirure de l'Union soviétique. Donc on a je dirais, avec la Russie, on a un cas extraordinaire de pays en jeu des appétits impérialistes, en jeu qui a pu être défendu d'autant plus aisément que sont venues se greffer là-dessus toutes les justifications politiques et idéologiques. Voilà. Hein, c'est-à-dire les bolcheviques à partir de 17, quelle horreur. Ça, évidemment, ça leur a flanqué un grand coup à ces pays impérialistes soucieux de se tailler en pièces la Russie. Et puis, évidemment, c'est un prétexte qui a tenu longtemps avant que ne lui succédât, depuis le début des années 2000, le nouveau prétexte, je dirais, oligarcho-bolchevique, qui est la présentation actuelle du personnage Poutine. Voilà. Ça, c'est l'Allemagne. Et c'est une Allemagne, évidemment, qui, dans la Deuxième Guerre mondiale, fait en Russie, en particulier, évidemment, font essentiellement en Russie européenne, et notamment en Ukraine, et dans les pays baltes, enfin dans toute la partie occidentale de la Russie, qui fait les ravages qu'on sait, puisque, il faut le rappeler, à une époque où on nous explique grosso modo que la libération par les armées soviétiques a été un esclavage abominable pour l'ensemble des peuples libérés, les Ukrainiens, les Baltes, etc., il faut tout de même rappeler que la très civilisée Allemagne a accumulé 30 millions de morts, hein, 27-30 millions de morts en Union soviétique, dont pratiquement les deux tiers de civils. Je le dis parce que nous sommes très frappés par les temps qui courent. Moi, évidemment, je ne suis pas spécialiste de l'actualité, mais étant historienne, je suis quand même très frappé par les déclarations de type historique qui se multiplient en Allemagne depuis que l'Allemagne, finalement, a retrouvé officiellement son ton habituel à l'égard de la Russie, je dirais son ton habituel. Pas plus, pas moins. Avec des forces politiques que certains n'imaginaient pas d'ailleurs dans cette configuration, hein, oui. Puisqu'ils avaient considéré que c'était des forces jeunes, anti-nazis, complètement détachées de cette gang pan-germaniste qui avait longtemps enserré l'Allemagne, hein, les Verts par exemple, n'est-ce pas,
discours, oui.
Voilà, qui tiennent, mais alors absolument le même discours. Parce que dans le site de politique étrangère allemand que je lis tous les jours, je viens de lire des déclarations officielles allemandes tout à fait remarquables, d'autant plus remarquables qu'on le sait, l'Allemagne est à l'avant-garde aujourd'hui de l'affirmation que la Russie, encore une guerre génocidaire, parce qu'il paraît que là aussi, elle mène une guerre génocidaire, qu'elle multiplie les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, qu'il va falloir la juger comme à Nuremberg, et que une des dernières en date, enfin moi j'ai lu ce matin, c'est une dame qui est spécialiste d'un think tank prétendument européen dont le titre est anglais, une Florence Daub qui vient de dire que les Russes finalement sont purement et simplement des barbares pour qui ils ont l'air européens, hein, ils ont l'air européens mais ils ne sont pas européens, et on pense immanquablement évidemment à ce grand thème du pan-germanisme 19e, 20e, ah, ouais, qui a expliqué que les Russes étaient des barbares mongols, de même d'ailleurs que les Chinois étaient des barbares, et que, voilà, la grande et puissante Allemagne civilisée allait porter remède à tout ça. Et donc cette dame dit que les Russes ne sont pas européens, que les Russes n'accordent pas de valeur à la vie, et qu'on ne le sait pas, ça. Et puis, quand même, comme elle était allée un petit peu loin dans sa conversation de mars, dans sa conversation télévisuelle, elle est allée encore plus loin dans l'affaire sur les Russes pas européens et qui n'accordent pas de de valeur à la vie, parce que les Allemands ont accordé beaucoup de valeur à la vie entre 1933 et 1945, surtout, et notamment entre 1941 et 1945, dirons-nous 1944 en Union soviétique, vu que les Russes se sont débarrassés des Allemands, pas à Berlin en tout cas, du territoire soviétique en juillet 1944. Et donc cette dame a devant le tollé général, enfin pas général, mais quand même dans le, devant le certain tollé qu'elle a déclenché, déclaré que pas du tout, elle n'avait pas du tout voulu être raciste. Mais j'insiste beaucoup pour nos auditeurs sur la nécessité d'avoir une vision historique de ce qu'est le pan-germanisme allemand.
Ben voilà.
Et qu'avait remarquablement analysé des chercheurs français au XXe siècle, qui sont devenus peut-être un petit peu timides. Je pense à l'un d'entre eux qui était de Montvermeil et qui avait fait des bouquins et qui a pourtant été un intellectuel, je dirais, très engagé auprès de l'État français, mais qui avait une connaissance de l'impérialisme allemand tout à fait remarquable et qui avait fait des études sur l'impérialisme allemand wilhelminien, que je recommande, puisque si vous lisez Vermeil, vous retrouverez tous les thèmes que nous voyons développés aujourd'hui par des forces politiques allemandes qu'on eût pu croire nouvelles et totalement détachées du passé pan-germaniste et nazi allemand, sachant, on le sait, c'est le cas d'ailleurs depuis les attaques contre la Yougoslavie, la Serbie et les bombardements de 1999, que les Verts se sont, dès ce moment-là, eux qui avaient au départ fondé leur expansion politique sur la verdure, la fraîcheur, l'écologie et le pacifisme. Et le pacifisme, ils ont, à partir de la période d'assaut direct des années 90 et surtout d'assaut de 1999, ils ont montré à quel point ils étaient rattachés
à cette tradition
pan-germaniste qui ne s'est jamais démentie depuis la fin du 19e siècle.
Et qui est totalement occultée derrière le pacte franco-allemand.
Voilà, franco-allemand. Et le pacte franco-allemand cache des misères depuis un certain nombre de décennies, ce qu'on a appelé la réconciliation franco-allemande. J'y ai consacré beaucoup de travaux et quelque chose qui a masqué, notamment aux Français, la réalité historique et qui amène un certain nombre de Français, et notamment, je dirais, de dirigeants français, à nous expliquer que chic, enfin, les Allemands s'éveillent au danger russe et que, heureusement, ils vont développer leur armement. C'est difficile de parler de réarmement allemand étant donné la puissance militaire que développe l'Allemagne depuis les années 1950, mais que, heureusement, les Allemands sont acquis à la nécessité de mener la guerre contre le permanent danger russe. Voilà. Dans tout ça, finalement, il n'est pas beaucoup question des bolcheviks, bien que les bolcheviks, évidemment, aient beaucoup contrarié, je dirais, l'ensemble du monde impérialiste. Et je dirais que ce qui se passe aujourd'hui en Russie, ce qui se passe aujourd'hui montre que, malgré les vociférations, on est très près de l'histoire. On est très près de l'histoire dans le cas allemand, et on est aussi près de l'histoire dans le cas américain. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure le cas américain, en montrant comment la violente opposition de l'impérialisme américain à l'impérialisme allemand s'est déployée à partir des années 1890, et comment les relations s'étaient ulcérées, étaient, définitivement perturbées à partir des développements de la rivalité sur le chemin de fer de l'Est chinois, donc grosso modo la deuxième moitié des années 1890. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les États-Unis sont présents en fait, en zone ukrainienne, en zone balte et même en zone russe, depuis beaucoup plus longtemps que ça ne se voit. Parce que les Américains, ce sont, ce qu'ils ont fait d'ailleurs à propos d'un certain nombre de pays, au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans laquelle, bien que entrant officiellement en guerre en avril 1917, ils étaient beaucoup moins allemands, anti-allemands qu'ils ne semblaient, les Américains ont, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, et ce, après avoir développé un programme wilsonien extrêmement favorable à l'Allemagne, clairement dès 1917, ça a même provoqué un sérieux grabuge dans l'alliance occidentale contre l'Allemagne, les Américains se sont lancés officiellement à partir de 1919-1920, dans une permanente alliance avec l'Allemagne, avec laquelle ils avaient des relations privilégiées avant-guerre, qu'ils avaient maintenues pendant la guerre, malgré ce qu'on appelle l'Enemy Act. C'est exactement la même chose qui s'est produite dans la Deuxième Guerre mondiale, toujours le même Enemy Act. Ils ont conservé et développé leurs relations avec l'Allemagne.
Et leurs intérêts économiques sur place.
Dans un intérêt économique, voilà. Sur place, j'allais dire, sur place, parce que l'Allemagne était le pays, malgré les traditions considérables, évidemment, de relations avec l'Angleterre. L'ancien colonisateur. L'Allemagne était devenue, au XIXe siècle, un pays absolument essentiel pour le développement des États-Unis. C'était noué sur place, et aux États-Unis, en Allemagne, toute une série d'alliances de capitaux, maintenues, je l'ai dit, pendant la Première Guerre mondiale, et évidemment développées considérablement après la Première Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, où, on le sait, les États-Unis ont fait, ont fait cavalier seul, puisqu'ils se sont officiellement retournés contre leurs officiels alliés de la période 1917-1918. Et donc, les Allemands, les Américains, ce qui n'est pas connu en général, se sont servis des Allemands, après la guerre, pour s'insérer, je dirais, dans les objectifs orientaux de l'Allemagne. Et en particulier des banques, comme la banque Kuhn, Loeb et compagnie, ont participé, dès les années 20, aux investissements allemands dans les États baltes, à l'Est, pas seulement en Russie, d'ailleurs en Pologne et ailleurs. Donc ils ont été des alliés à l'Est tout à fait conséquents. Je ne donnerai ici d'ailleurs qu'un exemple, il se trouve que c'est un exemple polonais. Mais par exemple, quelqu'un dont on connaît le nom politique, ou deux personnes dont on connaît le nom politique, mais dont on ignore en général complètement le substrat économique, les frères Delos. C'est-à-dire John, qui était connu, il faut bien le dire, bien avant la présidence de Eisenhower. Alors, à partir de la présidence d'Eisenhower, évidemment, tout le monde les connaît, puisqu'il y en a un, l'aîné, qui est secrétaire d'État, John Foster, et l'autre, Olen, qui est chef de la CIA. Bon, alors, ça donne une visibilité tout à fait remarquable, n'est-ce pas ? L'un demeurant secrétaire d'État de 1953 à 1961, enfin, 60, mais c'est janvier 61, et l'autre demeurant directeur de la CIA, directeur suprême de la CIA, de la même date jusqu'à l'affaire de la baie des cochons, qui a obligé le sieur Kennedy à se débarrasser de Landelos. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ignore résolument, c'est que ce sont les deux plus gros actionnaires, les deux plus gros partenaires, associés, du plus gros cabinet d'affaires, d'un des plus gros cabinets d'affaires des États-Unis, du plus gros cabinet d'affaires, d'avocats d'affaires de New York, qui s'appelle la Sullivan & Cromwell, fondée un certain temps avant, fondée au tournant du 19e, début 20e, puisque le frère aîné, Fasted, va s'y embaucher en 11 ou 12. Mmh. Bon, et quelle est la fonction de ce cabinet d'affaires? C'est une fonction de développement, bien sûr, de défense de grandes entreprises, des grands trusts américains, mais de grands trusts américains dont on le sait, l'expansion extérieure est considérable, et dont l'essentiel des activités extérieures, soit dans la défense des clients, des grands clients industriels et bancaires, soit dans la participation du personnel du cabinet et de ses associés, est lié à l'Allemagne. Et par exemple, Farce-Dallas est associé avec Flick dans la plus grosse entreprise métallurgique de Pologne. Tout ceci pour dire ce qu'est l'expansion jointe, l'expansion commune vers l'Est des capitaux allemands et des capitaux américains. Hein? Et vous voyez, la personne informée de la chose se rend immédiatement compte que des personnages qui apparaissent essentiellement, je dirais, comme les bergers ou les commandants militaires contre l'Union soviétique bolchevique, athées, abominables, sont avant tout de très grands capitalistes qui ont développé avec l'Allemagne et à la mesure de l'expansion allemande, une expansion dans les mêmes régions et en association, entre parenthèses, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on veuille entièrement se partager le morceau, parce que je renvoie encore à Lénine dans l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, on s'aime, mais on passe facilement de l'association à la guerre, étant donné les divergences profondes sur la
main. Partage.
Voilà, sur le partage-repartage, le plus gros, ayant toujours l'espérance et la réalisant souvent de boulotter le plus petit. C'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, dès l'entre-deux-guerres, les Américains s'intéressent beaucoup à la Russie. Ils s'intéressent beaucoup à l'Ukraine, avec les Allemands ou sans eux. Moi, j'ai montré dans le Vatican, l'Europe et le Reich, par exemple, comment Hoover, sous prétexte de missions humanitaires, les Américains adorant les missions financières sous couvert humanitaire, ça ne date pas, ça ne date pas d'après la Deuxième Guerre mondiale, comment Hoover et compagnie, Hoover qui est, comme disent nos diplomates français, vraiment la créature de Wall Street, comment Hoover, dans les années 20, là, sous prétexte de parer à la famine de la Russie, là, la vraie, celle de 21-22, se balade à travers toute la Russie, l'Ukraine, etc., en testant les futures zones d'expansion. Donc, les Américains, ils sont là. Évidemment, ils ne sont pas... Alors, d'abord, évidemment, à la période de la NEP, ils sont plus comme les Allemands, beaucoup là, puisque le partage
technique,
voilà, et puis pas seulement technique, je dirais que non seulement ils ont l'expertise technique, mais ils participent à des investissements, dans cette période capitaliste 1921, disons 1928, et donc ils sont là, et l'Ukraine ils la veulent, et je cite souvent un extraordinaire bouquin, enfin un chapitre d'un bouquin d'un publiciste et homme politique d'extrême droite polonais qui par exception d'ailleurs était moins pathologiquement dressé contre la Russie que ses congénères, qui s'appelle Dmowski et qui a fait un ouvrage sur la politique polonaise et la politique extérieure inter-impérialiste, et qui fait tout un passage sur l'Ukraine, extraordinaire. C'est un livre de 1930, dans lequel il explique que les grands impérialismes ont décidé de se tailler, de se manger l'Ukraine, qu'évidemment leurs ambitions respectives sont antagoniques, et que, bon, pour l'immédiat, il n'y a pas de problème. toute indépendance ukrainienne sera allemande, ce qui amène d'ailleurs à faire une petite mise au point sur ce qu'on appelle l'indépendance ukrainienne, et ajoute Dmowski, dans l'immédiat, l'Ukraine sera allemande, si les Allemands réussissent leur objectif, mais les Américains en veulent autant, et une chose est sûre, dit-il, la Russie ne se laissera pas faire. Parce que la Russie, dit-il alors, et alors c'est particulièrement vrai, parce que ne sait pas encore, s'amorce en 1930, avec les débuts de la planification, s'amorce le développement de la partie orientale de l'Union soviétique, qui va tellement se déployer dans les années 30, au cours des années 30, avec notamment en particulier le deuxième plan quinquennal, et évidemment, je dirais, à marche forcée avec la Deuxième Guerre mondiale, se développe la partie orientale de l'Empire. Donc quand Dmowski dit...
Qui va le sauver, en fait.
Voilà. Et quand Dmowski dit, en 1930, car on n'est qu'en 1930, quand il dit que prendre l'Ukraine à la Russie, il le dit en ces termes, c'est faire de la Russie un pays consommateur qui ne sera plus un pays producteur, c'est lui arracher les dents, c'est-à-dire aboutir à une situation que la Russie ne pourra pas accepter. Alors, nous avons, à partir des années 30 et surtout de la Deuxième Guerre mondiale et de l'après-guerre, nous avons évidemment un déséquilibre qui est moins fort, c'est-à-dire que la Russie n'est plus seulement une Russie développée européenne. Je rappelle quand même que la Russie européenne, en 1945, c'est un champ de ruines. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus une pierre.
Oui.
S'il y a des gens qui connaissent la Russie ou qui ont connu l'Union soviétique, ça a été mon cas, ils savent que les plus beaux palais d'Union soviétique, dans la partie occidentale, dans la partie européenne, ont été reconstruits pierre à pierre parce qu'ils étaient anéantis. Et avec les palais, il y avait l'industrie, parce que une partie considérable de la Russie européenne ressemblait à Stalingrad, aux ruines de Stalingrad. Bon. Il n'empêche, l'Ukraine, c'est une partie des poumons russes. Et il faut mesurer à cet égard ce qu'a représenté, pas seulement pour les bolcheviks, ce qu'a représenté évidemment non seulement la chute de l'Union soviétique pour des raisons qu'on n'analysera pas aujourd'hui et qui sont aussi des raisons, des conséquences politiques sur le mouvement ouvrier international, sur les luttes de libération nationale, etc. Nous parlons ici d'histoire, nous ne parlons pas de la propagande qui s'est développée depuis plusieurs décennies, nous parlons d'histoire, d'histoire vraie. Donc ça, c'est un problème qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que la chute de l'Union soviétique, c'est la possibilité pour cette incursion occidentale énorme, considérable, qui s'est déployée entre 1945, ce qui n'est pas très connu, et 1990, c'est quelque chose qui éclaire, dont on a absolument besoin pour éclairer aujourd'hui la situation de l'Ukraine, sans parler de la situation des pays baltes. Alors ça, c'est quelque chose vraiment de très important, parce que c'est complètement ignoré en France. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Ukraine, dans les rapports, je laisse de côté les pays baltes, on pourrait faire le même développement sur les pays baltes, mais la guerre en ce moment est en Ukraine. Ce qui s'est passé en Ukraine depuis 1990 est en ligne directe la conséquence de ce qui s'est passé, je dirais, en matière d'intervention allemande et américaine en Ukraine et sur l'Ukraine, hors d'Ukraine, entre, je dis bien, 1944 et 1990. Je recommande à tous nos auditeurs anglophones, enfin qui lisent l'anglais, je n'ai pas dit qu'ils forcément le parlent, mais enfin on peut éventuellement savoir lire une langue et puis pas, ne pas la pratiquer, ne pas la parler beaucoup, pas du tout. Mais il faut savoir qu'il existe, beaucoup de travaux, hein, beaucoup. Mais il existe en particulier un travail dont j'indique l'importance parce qu'il est en ligne et qui est l'ouvrage de deux historiens, l'un qui s'appelle Richard Breitman, B-R-E-I-T-M-A-N, et l'autre qui s'appelle Goda, voilà que son prénom m'échappe, G-O-D-A, de peut-être Nathanaël, je ne sais plus. Et le livre s'appelle Hitler's Shadow, à l'ombre d'Hitler. Alors, c'est un ouvrage qui porte essentiellement sur le sauvetage des criminels de guerre par les États-Unis, et pas un sauvetage qui doit tout à la soi-disant à la guerre froide qui serait, nous expliquons à partir de 1947, un facteur explicatif de tout.
C'est bien avant.
Si c'est pas évidemment le blocus, ce qu'on appelle le blocus de Berlin, qui n'est pas du tout un blocus de Berlin d'ailleurs, mais bon, cette situation, il faut tout simplement la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire que on est en 1944 dans une situation où l'Ukraine est encore, a jusqu'ici été sous le contrôle de l'Allemagne, hein, puisque c'est là qu'elle a fait ses ravages, voilà, c'est là qu'elle a développé, en succession de l'Empire austro-hongrois, son emprise sur ce qu'on appelle le mouvement national ukrainien. De mouvement national ukrainien, il n'y a jamais eu. Dmowski l'a expliqué, il y a quelque chose qui explique très bien. Ceux qui ont des doutes, je leur recommande vivement une petite visite aux archives du Quai d'Orsay dans ce qu'on appelle la nouvelle série 1898-1920 ou 1918, qui est une série extraordinaire, évidemment très très explicite sur les antécédents de la Première Guerre mondiale. Et là, ils verront que Berlin soutenait, finançait ce qu'on appelle l'autonomisme ukrainien avant 14. Donc, ce n'est pas Hitler qui l'a créé. C'est l'Empire wilhelminien. À l'Empire wilhelminien a succédé la République de Weimar. La République de Weimar a fait la même chose. Il y a un très bon livre qui est une simple synthèse et qui, à mon avis, ne fait pas assez de part à l'économie, mais qui est quand même un très bon livre, qui est le livre qui a dû paraître à l'Imprimerie nationale dans les années 70, je crois, d'un historien franco-israélien qui s'appelait Charles Bloch et qui s'appelle « La politique extérieure l'Allemagne hitlérienne ». Mais qui est un ouvrage reprenant tout l'héritage de la République de Weimar. Et qui, comme Fritz Fischer l'a fait, au grand scandale de la RFA en 1961, dit « Il n'y a aucune discontinuité entre la politique extérieure de l'Allemagne wilhelminienne, de l'Allemagne des Guillaumes, du Deuxième Reich, la République de Weimar et la Deuxième Guerre mondiale, enfin, et l'époque hitlérienne. Hein ? Et n'importe qui lit ces ouvrages que j'ai indiqués aujourd'hui comprend très bien qu'il n'y a aucune différence entre ces périodes et la période qui a suivi 1945 en Allemagne occidentale, qui est devenue l'Allemagne totale. Hein ? Bon. Et donc, à partir de la République de Weimar, comme avant, le mouvement ukrainien a été entièrement financé par Berlin. C'est pas vrai, d'ailleurs, une partie a été financée par la Pologne. Mais la Pologne, ratant si dépendant, colonisé depuis à la fois son partage du XVIIIe siècle et sa reconstitution d'après 1918, la Pologne a toujours été une colonie, depuis pour la période que je connais, disons, évidemment, à l'époque du partage, et puis dans la période qui a suivi. Mais officiellement, elle était un pays souverain, qui n'a existé d'ailleurs qu'à cause de la victoire française. Puisque, comme je l'ai montré dans le Vatican, l'Europe et le Reich, sans victoire française, il n'y avait pas de Pologne. Étant donné que l'Allemagne considérait que la Pologne lui appartenait. De même qu'elle considérait que l'Empire austro-hongrois devait entièrement lui appartenir. Ceci avec l'aval de la papauté, aval, je dirais, manifesté pendant toute la Première Guerre mondiale et officiellement, sinon publiquement, solennellement consacré par le pape Benoît XV en 1919, qui a accepté définitivement de soutenir l'Allemagne dans toutes ses ambitions est-européennes, toutes. Et on imagine, l'auditeur d'aujourd'hui imagine pourquoi Benoît XVI s'est appelé Benoît XVI. Parce qu'il se situait dans la parfaite continuité.
Benoît XVI autrichien.
Voilà, il se situait dans la parfaite continuité allemande de Benoît XV. Hein? Comme je l'ai dit dans un chapitre d'un ouvrage qui va paraître incessamment, qui s'appelle « La Russie sans œillères » et qui est un ouvrage dans lequel j'ai fait un chapitre sur les impérialismes étrangers face à l'Ukraine. Nous sommes avec le cas allemand, comme avec le cas américain, dans une situation de parfaite constance, je dirais, entre l'avant 1914 et la période qui a suivi. Et j'ai évoqué le rôle de l'Allemagne, évidemment le rôle des États-Unis. Si on ne lit pas ce genre d'ouvrage, ou si on n'a pas accès aux archives, que normalement consultent les historiens, on n'a seulement pas idée de ce qu'a représenté l'implication américaine en Ukraine. C'est-à-dire que, je le rappelle, le soi-disant mouvement national ukrainien, après avoir multiplié les ravages dans la période, dans la Deuxième Guerre mondiale, où le mouvement national ukrainien a joué le rôle de pur auxiliaire des Allemands. Ceux qui ont lu le remarquable livre de Raoul Hilberg sur la destruction des Juifs d'Europe, connaissent la distinction entre les auxiliaires actifs et les auxiliaires passifs de l'Allemagne dans la persécution des Juifs, puisque là ça concerne la persécution des Juifs. Donc ils savent que, alors ce qu'étudie Hilberg, c'est les États satellites. Il n'y a pas d'État satellite ukrainien, parce que le mouvement dit national ukrainien était officiellement à la recherche d'une Ukraine indépendante, mais l'Ukraine indépendante était naturellement un graal absolument inaccessible, puisque c'était l'Allemagne qui payait, outre la Pologne. Mais la Pologne, je renvoie à mes ouvrages sur le Vatican et le choix de la défaite, et Dominique Avici, les efforts désespérés ukrainiens de la Pologne sont des efforts de moustiques. Mais il faut le savoir, hein. La Pologne aussi, elle voulait l'Ukraine. La Pologne voulait tout, d'ailleurs. Elle veut toujours tout. Elle continue à vouloir tout. Elle n'aura jamais rien. Mais elle croit. Bon. Et donc, elle a joué un rôle. Elle a joué un rôle de portefeuille pour les Allemands qui n'a pas été inutile en Pologne non plus. En Ukraine non plus. Donc, les Allemands s'occupe de l'Ukraine, mais les Américains s'occupent de l'Ukraine de manière très très active à partir de, alors pour le coup, à partir de 1944. C'est-à-dire que le mouvement national ukrainien, dit national ukrainien, qui a une armée. Alors, quand on regarde ce que c'est que l'armée ukrainienne, l'armée de l'insurrection ukrainienne, un OUN, l'organisation des Ukrainiens nationalistes, a, à partir de 1942, ce qu'elle appelle une armée, une UPA, une armée insurrectionnelle ukrainienne. Alors, quand on y regarde de près, et que par exemple on a lu la thèse, la très grosse thèse de Grégor Rosolinski Libe, parue en 2014, on voit très bien ce que c'est que cette armée ukrainienne, enfin il y a plein d'autres d'ailleurs qui permettent de le voir, hein. Qu'est-ce que c'est que cette armée ukrainienne d'insurrection? C'est le ramassis des éléments de police qui ont servi à l'Allemagne depuis l'attaque contre la Pologne, le 1er septembre 1939, puis la Barbarossa, l'attaque contre l'Union soviétique, qui ont servi d'auxiliaires à la liquidation, on dira, des Juifs. Certes, des Juifs. Hein, ils ont fait des ravages. Alors, il faut le savoir, ces Ukrainiens, qui sont aujourd'hui le cœur de ce qu'on appelle la résistance ukrainienne, hein, du cirque de Zelensky, c'est pas compliqué. Ça se borne à l'Allemagne de Lvov, à l'Ukraine de Lvov, c'est-à-dire à l'Ukraine qui a été sous tutelle polonaise de 1920, de 1920 à 1939. Bon. Cette Ukraine de Lvov, qui a été une espèce de un élément majeur des campagnes anti-soviétiques, pendant toute la période soviétique, et en particulier qui a joué un rôle déterminant, très très important, dans la campagne sur le génocide de famine ukrainienne, patati patala. Je renvoie les lecteurs à mon site où il y a sur une soixantaine de pages une présentation de documents d'archives sur ce qu'est la question ukrainienne. On se trouve dans cette situation du mouvement ukrainien avec un mouvement qui a dépendu exclusivement de l'Allemagne de 1900, je dirais de la fin de l'avant 1914 à 1944. Et à partir de 1944, eh bien, le mouvement national ukrainien, il se sépare, d'ailleurs il ne se sépare pas. Il a deux sources de financement. D'une part, l'Allemagne occidentale, qui maintient son rôle. D'autre part, les États-Unis. Et c'est ça qu'explique, dans un chapitre 5, le livre de Godard et de Breitman. Voilà.
Ce qui veut dire que même dans l'Union soviétique, cette Ukraine est alliée, enfin ces mouvements sont alimentés financièrement par l'Ouest.
Voilà, et non seulement ils ont été alimentés financièrement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union soviétique a perdu au départ des Ukrainiens, des Allemands de Lvov, parce qu'en juillet 1944, les Allemands sont chassés de Lvov. Donc l'URSS récupère son territoire. Mais à partir de là, il y a toute une partie, dont Bandera et toute sa clique, qui suivent les Allemands qui se retrouvent à Berlin, qui après vont se retrouver tous à Munich, dans la zone américaine, d'où ils seront gérés. Il y a ceux qui sont restés sur place, c'est-à-dire le ramassis de l'armée soi-disant insurrectionnelle d'Ukraine, qui, comme le dit très bien Rosolski, et comme le montrent aussi Breitman et Godard, sont les reliquats de ce qui a tué les Juifs, les Polonais, les pas juifs ukrainiens, comme ceux aujourd'hui zigouillés par le bataillon Azov, parce qu'ils ont servi les Russes, donné de l'eau aux Russes, accompagné les Russes, etc.
Les Tziganes.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il y a les Juifs, les Ukrainiens pas d'accord, les Bolcheviks, bien sûr. Voilà, ça fait les ennemis d'aujourd'hui. Hein? Et puis, ça fait beaucoup d'argent, ça fait des à peu près 100 000, au minimum 100 000 qui restent sur place, qui vont tuer 35 000 représentants civils et militaires de l'autorité soviétique de 1944 à 1951, 35 000, et qui sont restés là. Que d'ailleurs, si j'ai bien compris, Khrushchev a traité avec beaucoup de bonhomie.
Il semble.
Voilà. Et dont nous voyons aujourd'hui les héritiers, qui ne se sont pas contentés d'être héritiers, mais qui ont été irrigués par de l'argent américain sans cesse et de l'argent allemand de 1944-45 à nos jours. Le chapitre 5 s'arrête en 1990. Et Madame Nuland nous a raconté, notamment devant le Congrès, que tout ça avait continué, puisque quand l'URSS s'effondre en 1991, il ne reste plus qu'à engranger les bénéfices, à les consolider, puisque Madame Nuland dit que le seul financement de la campagne idéologique des dernières années a représenté pour les États-Unis un débours de 5 milliards de dollars. Alors c'est moins que ce qui est affecté aujourd'hui aux armements, mais ça n'épuise pas tout ce que le nationalisme prétendu ukrainien a coûté aux contribuables américains.
Alors dernière question pour l'auditeur français. La France qui essaye de jouer un rôle, là je pense aux accords de Minsk et tout, elle est en culotte courte, c'est un gamin qui sert à rien, ou pas? Parce qu'on a tellement vu les deux autres, de façon permanente, dire c'est à nous.
La France n'est rien.
La France, voilà, c'est ça que
la France n'est rien. La France affecte un rôle diplomatique que les Russes sont bien aimables d'ailleurs de reconnaître, parce qu'ils l'ont toujours fait.
Oui, je crois.
Étant donné les relations qu'ils ont avec la France. Que j'ai analysé d'ailleurs dans certains articles, sont toujours très débonnaires les Russes avec la France, mais la France ne compte plus malheureusement pour rien en matière internationale, même, je dirais même théorique, et par conséquent jouant les parfaites accompagnatrices de l'Allemagne depuis cette merveilleuse alliance notamment de 1963 à laquelle De Gaulle s'est prêté. Elle met les pieds à chaque fois que, officiellement, que les Allemands mettent les pieds quelque part. C'est-à-dire que dans les fameux accords de Minsk, théoriquement, il y avait deux parrains.
Deux gardes.
Mais oui. Deux parrains qui, si on regarde ce qui s'est passé dans ces dernières années, se sont bien gardés de remplir la fonction de guide et de modérateur qu'ils avaient affecté. Donc, il vaut mieux ne pas parler du rôle de la France. Parler de ce qui se passe en Ukraine, c'est d'abord parler de ce qui se passe en Allemagne et aux États-Unis. Voilà. On ne peut pas dire autre chose, parce que toute autre chose n'aurait aucun intérêt. La France n'est rien. La France peut se faire inviter par Poutine à occuper un coin de table, mais elle ne représente... Je le dis comme historienne là. Je n'ai aucune volonté d'abaisser mon pays. Malheureusement, il s'est abaissé tout seul.
Mille merci, Ali. À bientôt.
À bientôt.
Voilà, que dire après un tel développement et une telle conclusion? Lisez, réécoutez sur le podcast de Radio Galère cette émission et puis abordez tous les ouvrages qui sont relatés, en particulier l'ouvrage donc de Breitman et Goda, dont il existe donc des traductions italiennes, des traductions anglaises, c'est l'original est en anglais d'ailleurs, qui permettent, si vous en avez le temps et le loisir, de bien comprendre comment fonctionnent ces diplomaties souterraines qui, tout d'un coup, éclatent à la figure d'une opinion internationale surprise, alors qu'il n'y a aucune surprise. L'histoire est une longue continuité, en particulier l'histoire de l'impérialisme. Longue continuité, on l'aura compris, qui aujourd'hui rencontre des obstacles de plus en plus importants. Et ça, c'est la suite de l'histoire qui va nous l'apprendre. Nous en serons les acteurs tous, mais on sera d'autant plus des acteurs efficaces et intelligents qu'on aura compris d'où tout cela vient et d'où tout cela procède. comment dire autre chose que bravo à Annie d'avoir fait ce travail et bravo à Annie de nous inviter à le poursuivre une fois que ce chemin est ouvert, chacun y apportant sa pierre. Merci à Radio Galère, merci Sidi pour cette bonne soirée qu'on a encore passée ensemble et à bientôt sur nos antennes.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête.